Alléluia. Alors, on va aller dans cette série pour les deux prochains dimanches qui va s'appeler « Pas de niaisage ». Lorsque j'ai regardé, en fait, cette pensée-là qui s'est déposée dans mon cœur, c'est pas ce mot-là que j'avais, mais après réflexion et m'arrêter, c'est ce mot-là qui m'est venu là, au niveau de niaisage. Et j'ai commencé à regarder une définition qui était québécois, en fait, mais ma pensée était davantage dans la définition que j'ai trouvée sur Internet qui est de québécois ou de dictionnaire québécois, c'est ceci. C'est de ne pas perdre, ou plutôt de niaisage, perdre son temps, de s'occuper de futilité, une procrastination ou encore une lenteur à faire les choses que l'on devrait faire. Alors, il y a vraiment une dimension où c'était vraiment ma pensée qui se déployait dans mon cœur, bien sûr en fonction de la direction de 2020 pour nos propres vies. D'être capable de se tourner, de saisir ce que Dieu a pour nous en 2020. Je veux juste dire ceci, je n'ai pas le titre n'est pas plus de niaisage, parce que dans ma pensée à moi, c'est pas qu'on a fait du niaisage en 2019, mais je ne veux pas faire de niaisage en 2020. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, ou plutôt, j'ai choisi pas de niaisage et que ça, le titre n'était pas plus de niaisage. Parce que je n'ai pas mal dans ma pensée qu'on a perdu notre temps, qu'on a s'est occupé de futilité en 2019 ou encore qu'on a fait la procrastination par rapport à ce qui était les choses qui étaient à faire. Mais plutôt de regarder 2020 et de voir ce qui est devant nous et de réaliser cette bénédiction et cette richesse que l'on a de pouvoir entrer en 2020 et de saisir tout ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu est celui qui est un grand Dieu, qui est un grand Seigneur et un grand Roi. Et comment on peut lui faire confiance à travers toutes choses? Comment on peut placer notre foi, comment on peut placer notre confiance dans le Seigneur pour cette année-là et saisir ce que Dieu a pour nous? Bien sûr, lorsqu'on va avoir des sous-thèmes pour cette semaine et la semaine prochaine, alors pas de niaisage, mais cette semaine, le sous-titre, c'est « Pour traîner le passé ». Pas de niaisage pour traîner le passé. En fait, on veut entrer en 2020 en ne traînant pas quelque chose. Encore là, ma pensée était celle-ci. Des fois, lorsqu'on a des ordinateurs, il vient un moment où on a toutes sortes de petites affaires qui ralentissent l'ordinateur, qui empêche l'ordinateur de bien travailler, de faire les bonnes choses. Et on a besoin de faire un certain ménage. On a besoin d'enlever certaines choses. On a besoin de faire par rapport à certaines historiques, d'enlever, de mettre les choses en place, de peut-être même repartir l'ordinateur. Et tout ça. Et je pense que dans ma pensée de ce matin, c'était est-ce que j'ai besoin de faire un ménage de certaines choses qui se sont accrochées à moi en 2019 ou à l'intérieur de mon passé? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais, dans cette nouvelle année-là, m'arrêter de dire j'ai besoin de faire un ménage dans ma pensée, j'ai besoin de faire un ménage dans mon cœur, j'ai besoin de faire un ménage dans qu'est-ce qui s'est accroché à moi, à l'intérieur de ma personne, dans mes pensées, dans mes sentiments, qu'est-ce qui, dans mon cœur, j'ai besoin qu'il soit enlevé pour être capable de saisir et vivre pleinement ce que Dieu a pour moi en 2020. Et des fois, on a besoin comme de regarder dans l'ordinateur et de voir qu'est-ce qui ralentit les choses. Qu'est-ce qui empêche l'ordinateur de travailler à son maximum, à son meilleur, d'en ressortir ce qui est le mieux? Parce que je crois que Dieu, alléluia, t'a créé de la meilleure façon, qu'il a fait ce qu'il y a de mieux, de la meilleure chose à l'intérieur de ta vie, de la meilleure affaire de ce qu'il peut créer. Mais il est possible que des choses qui se sont retrouvées dans ta vie, qui se sont attachées à ta vie, dans lesquelles tu te tiens, ou dans ton cœur, ou dans tes pensées, dans les doctrines, dans les pensées, des choses, des sentiments, des émotions, où on a besoin de faire un certain ménage. Texte de base, c'est Isaïe chapitre 43, le verset 18, ça dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu est en train de parler à son peuple et d'amener une pensée pour un futur à l'intérieur de cette nation-là. Il faut comprendre que le peuple de Dieu à ce moment-là était dans une dimension d'être opprimé, d'être gouverné par un peuple ou une nation qui n'était pas nécessairement d'Israël. Et en fait, je crois qu'Isaïe, le chapitre 1, le verset 6, nous démontre bien l'état dans lequel le peuple de Dieu se retrouvait à ce moment-là. Ça dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Ça dénote ce dans quoi le peuple d'Israël, Dieu se retrouvait à ce moment-là. Alors Dieu, au chapitre 43, est en train d'établir ou amener, ou en fait d'être capable de faire un sens de coupure, je dirais de nettoyer certaines choses qui ont pris place dans le cœur et dans la pensée du peuple de Dieu à ce moment-là. Je pense que Dieu, dans le chapitre 43, est en train d'amener, de rebooter quelque chose, de réaviver quelque chose, de raviver plutôt quelque chose, d'être capable de juste laisser certaines affaires en arrière dans lesquelles le peuple de Dieu s'avait pris place dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs êtres. Et à ce moment-là, alléluia, ça là, Dieu veut faire que ça va être brisé pour être capable de les amener dans ce que Dieu a pour eux. En fait, on doit être capable de saisir, de comprendre, ou plutôt de se poser la question, est-ce que le passé est un obstacle ou une propulsion à l'intérieur de ma vie? Qu'est-ce que l'année 2019, 2018 et 2017 et les autres antérieurement? Vous savez ceci, chacun d'entre nous ont un passé différent. Certains ont vécu des choses terribles et chaque personne a vécu des choses terribles à sa manière. Je pense que chaque individu dans sa vie a des choses dans lesquelles il s'est retrouvé qui ont été difficiles. Chacun a vécu de bonnes choses, de moins belles choses. Certains ont été marqués d'une certaine façon par quelque chose. D'autres ont été marqués d'une autre façon par quelque chose d'autre. Mais chacun d'entre nous a un passé. Et lorsqu'on regarde cela, on a besoin de réaliser, de savoir est-ce que ce qui a été arrivé dans ma vie passée, qui n'est pas nécessairement tout de ce que Dieu a voulu, mais à travers ça, alléluia, Dieu est celui qui veut m'amener dans une dimension dans laquelle, alléluia, le Seigneur est celui qui veut me donner de saisir dans ma vie, non pas comme un obstacle, mais afin de m'amener où Dieu veut se saisir, où toute chose peut concourir à mon bien, et être capable de m'amener dans ce que Dieu a pour moi, de ce que Dieu a pour ma vie, de ce que Dieu veut établir à l'intérieur de ma vie. Je veux croire que Dieu veut se servir de certaines choses pour être capable, bien sûr, de nous amener dans ce qu'il a pour nous et être capable de nous propulser dans ce que Dieu a pour chacun d'entre nous à l'intérieur de cette nouvelle année. Bien sûr, notre présent va souvent déterminer notre futur, ce qu'on va choisir aujourd'hui, le ménage qu'on peut faire, des choses à laquelle on dit oui, ou des choses à laquelle on dit non, ou des choses que l'on permet à Dieu, comme on a dit à la fin de la louange ce matin, d'élargir à l'intérieur de nos cœurs. Le présent, ce qui se passe, ce que Dieu veut faire maintenant, va être déterminé ou va être déterminant à l'intérieur de notre futur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2, ça dit, « Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au moment opportun, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Maintenant, le présent favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Des fois, on fait référence à cela dans la dimension de ne pas attendre pour donner une entrevue au Seigneur. Mais je pense que le texte veut nous amener aussi dans une dimension de réaliser que c'est maintenant le jour du salut, c'est le jour de délivrance, c'est le jour de restauration, c'est le jour de saisir ce que Dieu a pour nous. Et le texte dit, c'est un moment favorable. C'est un temps favorable. Dans 2 Corinthiens, notre traduction va dire ceci, car il leur dit au temps agréé, un moment agréé, je t'ai exaucé. Et en un jour de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps agréable. Je veux vous dire que Dieu veut faire de 2020 un temps agréable. Peut-être que c'est pas ce que tu penses. Peut-être que tu es dans une période de ta vie que c'est peut-être pas nécessairement agréable. Mais je veux croire et je crois et je pense sincèrement que Dieu veut faire dans nos vies 2020 une année qui est agréable. Dieu veut faire dans ton couple cette année une année agréable. Dieu veut faire dans ta vie de famille une année agréable. Dieu veut faire dans ta vie autour de toi une année qui va être agréable. Et ça dit, voici, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant, alléluia, que Dieu veut commencer à le faire. Tu peux t'accrocher et des fois on s'accroche à certaines choses. Le présent va déterminer ce qui est devant nous. Vous savez, il y a un certain danger par rapport au passé. Il y a un certain danger par rapport au passé. Et des fois, on va remettre des situations que Dieu peut faire maintenant, aujourd'hui, que c'est le moment agréable, que c'est le maintenant dans lequel le jour du salut, nous, on va remettre à demain. Demain, Seigneur, on va te permettre de faire telle et telle affaire. Demain, Seigneur, on va faire un ménage par rapport à tout ça. Il y a un danger par rapport à ce qui est du passé. Premièrement, deux choses par rapport au danger du passé. Premièrement, il y a un danger de retenir des situations difficiles qu'on a vécues à l'intérieur de nos vies. Le passé ne comporte pas nécessairement toujours des beaux et des bons moments. Et même dans la vie de certaines personnes, le passé est davantage synonyme de noirceur ou de blessure par rapport à leur vie personnelle, c'est-à-dire de leurs enfances, de situations passées, alors que Noël devrait être un moment de joie, de bénédiction, pour certains, ça n'en est pas un. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce moment, la journée de Noël est imprégnée de quelque chose d'un goût qui est pas bon, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas bon, mais parce que le passé rend un goût amer maintenant, dans le présent. Mais si Dieu voulait faire les choses autrement, et si Dieu voulait que le jour de maintenant, alléluia, ait un goût qui est agréable, et si Dieu voudrait faire maintenant un goût qui est agréable, et c'est le même dans notre vie avec le Seigneur, dans des situations qu'on a vécues dans l'Église, des situations dans lesquelles on s'est retrouvé autour de nous et qu'on s'est retrouvé dans des situations particulières, on a besoin de dire de Seigneur, on veut faire un ménage. Il y a des choses qu'on veut déliter, des choses qu'on veut laisser en arrière, des choses qu'on veut recevoir la guérison, des choses que Seigneur, alléluia, tu veux faire la bonne chose et qu'on veut saisir la santé. On a besoin d'avoir cette vie, cette santé avec le Seigneur spirituellement, émotionnellement et intérieurement avec Dieu. Vous savez ceci? Si on veut faire, qu'on veut enlever quelque chose qui est un virus dans l'ordinateur, c'est pour qu'il aille bien, qu'il soit en santé. Si on a pogné le virus de la grippe et qu'on veut enlever le virus, c'est pour, pas juste en fonction d'enlever le virus. Si on enlève le virus puis on reste malade, est-ce qu'on a gagné quelque chose? La réponse est non. On veut que le virus soit parti parce qu'on veut recouvrir la santé, parce qu'on veut saisir la santé. Et cela est vrai à l'intérieur de notre vie. Bien sûr, on peut se rappeler des choses du passé dans lesquelles on a vécu. Mais le Seigneur est celui, alléluia, on ne veut pas vivre dans cette situation-là constamment pour nous empêcher ce que Dieu a pour nous. Chacun d'entre nous, on a un bagage. Les familles ont un bagage. Des situations matrimoniales qui ont vécu, qui ont fait que ça a bien marché ou pas bien marché, puis que là, on se retrouve dans quelque chose, qu'on ramène des affaires. Vrai dans nos vies personnelles. Même vrai dans notre relation avec le Seigneur. Et on a besoin de faire attention à cela. Deuxième danger, c'est de s'accrocher, alléluia, par rapport à des à des choses qu'on a vécues, qui nous ont fait du bien à l'intérieur de nos vies. On peut s'accrocher, c'est pour cela que je pense qu'aussi dans le texte d'Ésaïe 43, ça dit « ne pensez plus ». Le texte ne veut pas faire référence à ne plus se souvenir, mais c'est plutôt de ne pas vivre que dans le passé. Que cela, vous savez, on a grandi, j'ai grandi dans l'Église, j'ai vécu des choses extraordinaires dans l'Église de Dieu, dans ma relation, ma communion avec le Seigneur. Je veux bénir Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans mon enfance, dans l'éducation chrétienne dans laquelle j'étais, dans la jeunesse dans laquelle j'étais, dans le jeune homme en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, comme un jeune homme où j'ai vécu des glorieuses bénédictions. Mais je veux saisir ce que Dieu a pour moi maintenant. Je veux me rappeler de ça, mais cela ne veut pas, je veux pas vivre là-dedans. Je veux voir la grandeur de Dieu, je vois que si Dieu a fait des choses, il peut le faire encore aujourd'hui, mais en même temps, je suis conscient que les choses que Dieu a fait, qui ont été glorieuses à ce moment-là, alléluia, que c'était pour ce temps-là. Et ce que j'ai vécu là, veut me donner de vivre ce que Dieu a maintenant, qui est peut-être autre chose ou de pour ma vie maintenant, qui me donne de croire que Dieu, ce que Dieu a pu faire, il peut le faire, il est capable aussi de faire différemment aujourd'hui. Il a les capacités pour le faire. Des fois, on s'accroche à des choses qu'on a vécues de c'était, puis là, c'est correct, là, OK? Mais je vais le dire quand même, avant, c'était comme ça. Quand j'étais jeune, c'était de même. Et c'était good. C'était excellent. Quand tu étais jeune, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, est-ce qu'on veut revenir à ne pas avoir d'ordinateur comme quand on était jeune? Pas de téléphone cellulaire? Peut-être certains vont dire que ça serait peut-être mieux. Je ne suis pas en train de dire que c'était mieux ou pas. C'est juste que c'est là. Chaque année, on a eu leurs défis. Chaque génération a eu leurs défis. Mais dans chaque génération, alléluia, Dieu a eu quelque chose pour eux. Et je vais vous dire ceci, chaque génération a dû laisser des choses en arrière pour saisir ce qui était devant eux. Ça, c'était vrai pour Abraham. Quitte Charan, Abraham, et va-t'en dans le pays que je vais te montrer. C'est pas Charan ton pays, c'est pas Charan ta ville, c'est la terre promise. Et cela va devenir pour toi et ta génération future. Et alléluia, la génération future se sont retrouvés dans ce que Dieu avait pour eux. De ce que Dieu avait pour eux. Ça, c'était vrai pour Ruth. C'était même vrai pour Naomi ou pour Noémie. C'était vrai pour elle. Dieu a voulu l'amener dans ce qu'elle était. Et lorsqu'elle est revenue, elle va dire, appelez-moi Mara. Mais en fait, alléluia, ce retour-là était le plan de Dieu pour la suite des choses, autant pour Naomi que pour Ruth. Alors, on veut bénir Dieu pour le passé. On veut être reconnaissant. On veut apprendre. On veut même que des choses que Dieu peut faire dans le présent, dans le futur, que Dieu rétablisse. Mais en même temps, nous ne voulons pas que cela nous empêche de saisir tout ce que Dieu a pour nous. Vous savez, on peut regarder le passé et voir le passé comme une fatalité du futur. On peut regarder les choses comme une fatalité du futur. Je vous ai parlé de Naomi dans la parole. Dans Ruth, chapitre 1, le verset 20, ça dit, elle leur dit, ne parlez pas, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez plus comme j'étais avant, parce que c'est terminé ce que j'étais avant. Je me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire. Que veut dire Naomi? Gracieuse, merci. Pardon? Agréable, gracieuse. Alors, ne m'appelez plus agréable, ne m'appelez plus gracieuse. Appelez-moi Mara. Amère. Ne m'appelez pas ce que j'étais. Il y a comme si ce que j'ai vécu a fait qu'il n'y a plus de possibilité de. La raison pour laquelle son nom a changé, elle veut changer son nom, c'est pas ce qu'il y a de futur. C'est ce qu'elle a vécu là où elle était quand elle a perdu son mari, ses fils, c'est toute la situation dans laquelle ce passé-là maintenant, là où elle est, ce qu'elle avait vécu était maintenant quelque chose de passé. Et elle, maintenant, elle est en train de prendre le passé comme une fatalité, pour son futur. Alors qu'on connaît bien l'histoire, qu'un jour elle va se retrouver avec un enfant dans ses bras. Alléluia. Je veux vous dire ce matin que votre passé n'est pas une fatalité de 2020. Nous avons besoin de le saisir. Alléluia. Nous avons besoin de le comprendre. Dans la parole de Dieu, alléluia, il y a eu des moments difficiles. Que ce soit pour Moïse, que ce soit pour Sarah, qui ne pouvait pas avoir, Moïse et Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Abraham, Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, que ce soit Anne, dans la parole, la femme avec la perte de sang, le père et son fils, qui étaient possédés, qui depuis longtemps voyait son fils jour après jour. Cet homme a cru que le passé, il y avait quelque chose que Jésus pouvait faire qui pouvait être différent. Il y a des femmes comme Anne, des femmes, alléluia, comme Ruth, qui a su croire. Il y a des hommes comme Pierre, comme Jean, comme Paul, qui ont cru que leur passé ne devait pas ou ne serait pas une fatalité pour leur avenir. Nous avons besoin de croire que Dieu peut le faire, peut accomplir et le faire ce qu'il veut faire. Parce que vous savez, des fois, vivre dans le passé peut devenir une certaine sécurité. De vivre dans ce qu'on était de passé peut devenir une sécurité dans laquelle le confort, on est bien, tout est correct, tout se passe bien. Même la blessure devient une sécurité. Des situations dans lesquelles on ne devrait pas être bien, on est devenu bien. Le Seigneur est celui, alléluia, qui veut nous amener à saisir que notre sécurité n'est pas ni dans notre passé, ni dans notre présent, et ni dans notre futur, mais que notre sécurité se trouvera en Dieu lui-même. Que notre sécurité ne sera pas dans tout ce qu'on aura planifié, dans tout ce qu'on aura mis en place. Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'a pas besoin de planifier une retraite, qu'on n'a pas besoin de mettre des choses en place pour demain? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que malgré tout ça, la sécurité n'est pas garantie. La seule vraie sécurité, c'est lorsque nos vies sont mises entre les mains de Dieu. Que nos vies sont placées dans les mains du Seigneur. Et ça, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le présent et ce n'est pas le futur. On a besoin, alléluia, de savoir que Dieu a quelque chose pour nous. Bien sûr, la Bible dit de nous souvenir, de nous rappeler, de nous souvenir du passé. Comme j'ai dit dans le texte d'Isaïe, ça dit de ne plus vivre sous les choses du passé, que ça n'allait plus, c'est-à-dire que le peuple était sous une domination du dit « je vais faire quelque chose de nouveau, la connaîtrez-vous pas » et ça va être ce que je vais parler la semaine prochaine. Mais on a besoin de saisir, mais en même temps, alléluia, on a besoin de se souvenir de certaines choses. Se souvenir de qui Dieu est. Se souvenir ce que Dieu a fait. Pour saisir que Dieu est capable aujourd'hui de faire ce qu'il veut faire. Dans Isaïe 46, verset 9, ça dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. » Et là, il dit pas seulement dans une dimension, c'est intéressant que le texte ne fait pas seulement référence à un souvenir de quelque chose, d'un moment passé ou d'un instant qui est arrivé quelque chose, mais là, il dit « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Ce que Dieu est en train de dire, le Tout-Puissant que j'ai été pour agir dans cette situation-là, je peux le faire aussi maintenant. Isaïe 46, verset 9, rappelons-nous de ce que j'ai dit par rapport à Isaïe chapitre 1, dans lequel le peuple était dans une situation de dévastation, de brisement. Dieu ramène encore, « Souvenez-vous qui j'ai été, alléluia, dans les temps anciens. » Et là, pas seulement dans ce que s'est passé d'un souvenir, mais plutôt de mon action et de qui pouvait faire les choses et comment on peut faire encore les choses. Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 18, ça dit, « Ne les craignez point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Encore là, c'est intéressant. Dieu rappelle un moment, mais Dieu rappelle un moment dans la puissance de ce qu'il avait le pouvoir faire, de ce qu'il était le Tout-Puissant pour le faire. 1 Chronique, chapitre 16, verset 12. « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et des miracles et des jugements de sa bouche. » Alors, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous retient à l'intérieur de nos vies? Qu'est-ce que du passé peut nous retenir à l'intérieur de nos propres vies? Je pense que ce passé-là peut nous, quelquefois, nous attacher ou quelquefois peut nous amener à davantage à entrer avec puissance dans ce que Dieu a pour nous. Vous savez, alléluia, Christ veut que les choses soient devenues nouvelles à l'intérieur de nos vies. Dieu veut que les choses, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui prenne place. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ça, là, c'est pas juste le moment où tu as donné ta vie à Jésus. Ce verset-là, c'est pas pour lorsque j'avais 7 ans ou 6 ans puis j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pas lorsqu'à 14 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, ou encore à 30 ans ou à 40 ans, ma vie est devenue nouvelle à ce moment-là. Je vais vous dire, alléluia, que la vie nouvelle, c'est chaque matin. Que la vie nouvelle, c'est chaque midi. Que la vie nouvelle, c'est chaque souper. Que la vie nouvelle, alléluia, c'est à chaque coucher. Qu'il y a à ce moment-là, la vie, notre vie en Christ, ça dit, si quelqu'un est en Christ, est en Jésus-Christ, sa vie est en Dieu. Alléluia. Et elle est là par le sang de Jésus-Christ qui a été renouvelé. Ça dit, il est une nouvelle créature. Ça, c'est le moment, alléluia, où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça dit, les choses anciennes sont passées et voici maintenant chaque jour. Alléluia. Les choses sont devenues nouvelles. Chaque jour, on devient une nouvelle créature. Chaque jour, alléluia, on est une nouvelle créature. Chaque jour, alléluia, on a besoin que Dieu renouvelle. Et chaque jour, on a besoin que Dieu, alléluia, puisse faire une œuvre de guérison, restauration à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies. Vous savez, on peut retenir. Le texte dit encore, je le lis encore une fois, Ésaïe chapitre 43, verset 18, ça dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il ne s'agit pas ici d'oublier ce que Dieu a fait dans le passé, mais plutôt, alléluia, le moment est venu de porter notre attention à l'œuvre nouvelle que Dieu veut faire aujourd'hui, de ce que Dieu va accomplir. Il est le temps de commencer à porter notre attention sur ce que Dieu veut faire maintenant. Trop souvent, ce qui nous empêche de saisir ou de prendre ce que Dieu a devant nous, ou ce que Dieu même a pour nous aujourd'hui, c'est que notre attention est portée sur les choses seulement du passé. Alors qu'on a besoin de saisir ce que Dieu a pour nous maintenant. Et de voir que dans cette œuvre nouvelle, alléluia, elle est plus grande dans l'accomplissement de ce que Dieu veut faire maintenant. Le désir de Dieu n'est pas de vivre dans le passé, mais le désir de Dieu, c'est de vivre le présent et le futur pleinement dans ce qu'il a préparé. Vous savez, si on commence à juste prendre l'œuvre de Dieu, si on commence à prendre le passé et de saisir cela, c'est comme de passer aux côtés de ce que Dieu a formé dans le présent, de ce que Dieu a formé à l'intérieur de nos vies, a formé à l'intérieur de nos cœurs, dans lequel on a besoin de prendre, et si on passe aux côtés de ce que Dieu a préparé, je vais vous dire ceci, cela attriste Dieu. On est en train où Dieu a formé les projets que Dieu a formés, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir. Ce projet-là que Dieu a formé, si on ne le saisit pas parce que le passé dans notre vie nous fait passer aux côtés, puis le texte dit que c'est possible, ça dit dans Ésaïe 43, « Ne la connaîtrez-vous pas? » Ça dit. C'est possible de passer aux côtés. Mais je veux pas que ça soit le passé. Je veux y entrer pleinement. Je veux saisir pleinement ce que Dieu a pour nous. Et à travers ça, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent nous amener, qui vont faire que le passé va nous retenir. Des situations, des expériences que l'on a vécues, qui des fois vont nous amener dans des situations où on va vivre que dans ces situations-là. Ces expériences qu'on a vécues, ces situations qu'on a vécues, on a besoin. Deuxièmement, les gens. Les gens peuvent avoir mis des poids sur nos vies, des pressions sur nos vies, des dimensions sur nos vies qui nous empêchent de vivre. Vous savez ceci? Si Ruth aurait écouté Naomi, elle ne serait pas allée en Israël. Naomi a mis beaucoup de pression sur la vie de Ruth pour retourner dans son pays. Mais Ruth a choisi, alléluia, plutôt elle va choisir de marcher dans ce que Dieu a pour elle. Elle n'a pas laissé Orpah, elle est retournée à son passé. Et c'est ce que Naomi a dit de faire, retourner dans votre pays, retourner de là où vous venez, mariez-vous, ayez des enfants, ayez un avenir dans le passé. Je vais vous dire ceci, là. Si on pense qu'on a un avenir dans le passé, c'est qu'on passe aux côtés de quelque chose. J'ai pas un avenir dans le passé. J'ai pas un avenir dans mon ancienne vie. J'ai pas un avenir, alléluia, de ce que j'avais avant de connaître le Seigneur. Il y a des gens qui abandonnent Dieu, retournent dans leur vie passée, pensant que là, ils vont avoir un avenir. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ont perdu l'avenir. Ils sont en train de dire non à l'avenir de ce que Dieu, alléluia, avait pour eux. Vous savez ceci, je crois sincèrement dans mon cœur, que si Dieu avait un avenir pour Ruth en Israël, il y en avait un aussi pour Orpah. Je pense que Dieu en avait un pour les deux, mais une a choisi que son avenir serait dans son pays avec les faux dieux et les autres. On a besoin, alléluia, de saisir et de suivre Dieu. Bien sûr, les gens doivent nous influencer. Bien sûr, les gens doivent nous aider à entrer dans ce que Dieu a pour nous. Des gens doivent être conseillés, d'avoir des mentors, une personne avec laquelle on va ouvrir notre cœur. On a besoin, alléluia, de suivre Dieu, de marcher avec le Seigneur. On a besoin, bien sûr, d'avoir des gens qui ont une autorité terrestre. Les enfants ont besoin d'avoir des parents. Dans l'Église, on a besoin d'avoir des autorités, on a besoin de gens autour de nous qui vont nous aimer et qui vont vouloir nous propulser dans ce que Dieu a pour nous. Mais on a besoin de suivre Dieu. Les hommes passent, les femmes passent, et Dieu reste. Suivons Dieu. Dernière chose que je veux adresser par rapport à ça, je veux prendre qu'un moment. Le pardon. Il n'est pas possible de laisser le passé en arrière sans qu'il y ait le pardon qui prenne place. Il n'est pas possible de saisir ce que Dieu a pour nous et de comprendre ce que Dieu veut pleinement de nous. Et ce n'est pas possible de saisir toute la grandeur du sacrifice de Christ si nous-mêmes, on n'est pas prêts à pardonner. Ce n'est pas possible de saisir toute l'ampleur du pardon de Dieu dans ma vie aujourd'hui pour le péché que j'ai eu hier, que j'ai fait hier, si d'abord et avant tout, je ne saisis pas pleinement le sacrifice de Christ. Et si je saisis pleinement l'action et le sacrifice de Christ pour ma vie, pour le pardon de mes péchés aujourd'hui, cela m'amènera nécessairement à vouloir pardonner ce qui est dans ma vie ou ce qui m'a été fait à l'intérieur de ma vie. Certains ont entendu parler de cette femme, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom est une prédicatrice qui a prêché dans le monde entier. Une femme qui est connue à travers le monde. On connaît des fois peu de choses de la vie de ces gens-là. Mais cette femme-là, alors qu'elle était avec sa sœur, qu'elle était une jeune chrétienne hollandaise, avait été emprisonnée dans un camp de concentration nazi. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle était là, elles ont été maltraitées. Et l'un des gardiens était l'un des gardiens les plus durs, les plus méchants à l'intérieur pour la vie de ces deux femmes-là. Il était en plus le gardien des douches et était particulièrement cruel, le texte dit, l'histoire dit, et brutalisait Corey et sa sœur. Après la guerre, Corey, dans ce moment-là, elle a été maltraitée, c'était un homme cruel et particulièrement envers Corey et sa sœur. Et après la guerre, Corey a essayé de pardonner, de chasser de ses pensées, de son cœur, tout ce qu'elle avait vécu par rapport à cet homme-là. Alors qu'elle voyageait à travers l'Europe, qu'elle prêchait la bonne nouvelle, et dans le cadre d'une série de conférences dans lesquelles elle était en train de donner, elle était entourée d'une foule, et tout à coup, elle a entendu une voix qui a crié le numéro de la prison dans laquelle elle était. Dans la foule qui était là, elle a entendu le numéro de la prison dans laquelle elle était. Et lorsqu'elle a entendu ce numéro-là, le texte, l'histoire dit qu'elle a resté paralysée sur le champ. C'est comme si elle a été incapable de continuer ou de faire quelque chose. Elle a reconnu instantanément la voix de ce gardien des douches. Elle se faufila pour s'en aller en arrière, et alors qu'elle était en train de tenter de se faufiler, elle est arrivée face à face avec cet homme. Où l'histoire dit, ça dit qu'elle arriva face à face avec celui qui lui avait si souvent déformé le visage. Quelque chose. Et l'homme à ce moment-là a déclaré, « Je vous ai cherché dans toute l'Europe. Après ces jours sombres, j'ai rencontré Jésus-Christ. Dieu m'a pardonné et maintenant j'essaie de trouver toutes les personnes du camp pour les supplier de me pardonner. » Et à ce moment-là, ça dit, Corey, j'ai commis un si grave péché contre vous. Pouvez-vous me pardonner? Et le texte de l'histoire dit que Corey, à ce moment-là, s'est mis à revivre toutes les scènes de la prison. Et elle a commencé, l'histoire dit qu'elle a pas pu regarder cet homme face à face, elle a regardé par terre, sans rien dire. Une seconde fois, cet homme lui a dit, « Pouvez-vous me pardonner? Je vous supplie de me pardonner. » L'homme lui a même pris le bras en la suppliant de lui pardonner. Encore une fois, ses pensées, ses souvenirs remontaient à la surface de tout d'horrible, de ce qui avait été fait envers elle, de ce que cet homme avait fait. Et une troisième fois, « Me pardonnez-vous, cet homme a-t-il dit? » Et il a dit, « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Et à ce moment-là, cette femme, Corey, raconte, elle dit, « J'ai regardé par terre. Il avait semblé que dans mon esprit, je recevais une vision toute nouvelle de ce qu'était la croix. J'ai vu le Seigneur qui était pendu et je l'ai vu me regarder. Il disait, « Père, pardonne-moi. » car ils ne savent ce qu'ils font. Elle a eu dans cette vision-là la parole de Dieu qui a, où Jésus la regardait, elle, disant, Père, pardonne-leur. Et elle savait qu'à ce moment-là, cette parole-là que Jésus adressait, c'était pour elle. Et dans cette vision toute nouvelle, alléluia, de la croix, elle a commencé à vouloir et à pardonner. Elle dit ceci, et je ne sais pas trop comment, mais à ce moment-là, Dieu m'a donné la grâce de pardonner. À ce moment-là, Dieu m'a rendu capable de le faire. Il y a une réalité qu'on a besoin de la grâce et de l'action de Dieu à l'intérieur de nos vies. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Qu'est-ce qui doit changer maintenant à l'intérieur de nos vies? Qu'est-ce qui doit changer maintenant à l'intérieur de nos cœurs? Quel est le ménage qui doit être fait par rapport à certaines choses pour rentrer dans ce que Dieu a pour nous? Qu'est-ce que tu dois pardonner? Quelles sont les situations que tu as besoin de remettre entre les mains de Dieu. Quels sont les gens, alléluia, ou plutôt, quelle est maintenant la direction que tu dois prendre par rapport au Seigneur? Je conclue en disant, alléluia, on va chanter, je crois, le quatrième chant de ce matin, on va juste le jouer doucement. Je conclue en disant ceci. Dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 19, il dit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à mon passé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ce que j'ai passé à travers, quand je pense à ça, à l'absinthe et au poison, le texte dit. » C'est fort comme mot. Il dit « Quand mon âme s'en souvient, un peu comme Corey lorsqu'elle avait cet homme devant lui, devant elle. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, voici, aujourd'hui, ce que je veux repasser en mon cœur. Voici la décision que je veux prendre aujourd'hui. Ce qui me donnera un avenir et une espérance. Voici ce que j'ai choisi de te dire, que mon passé ne sera pas une fatalité pour mon avenir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est bon ce matin. Dieu est un Dieu qui est bon aujourd'hui. Les bontés de Dieu, alléluia, ne sont pas épuisées. Tout ce que Dieu dit, les bonnes choses. Dieu ne les a pas toutes données à Pasteur Noémie ou à Hélène. Il y a plein de grandes bontés, surtout pour Hélène. Emma, tu sais, c'est quand même une grande bonté. Hein? Dieu ne les a pas toutes épuisées à donner à quelqu'un. Dieu en a encore pour toi. Aujourd'hui, les bontés de Dieu sont pour toi maintenant. Il y en a encore pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, pour la ville de Shawinigan, Dieu a encore des bontés. Pour nos parents, Dieu a encore des bontés. Elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et là, c'est, oh, que ta fidélité est grande. Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma détresse et à ma misère, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux un instant? Je ne ferai pas d'appel en avant aujourd'hui, mais je veux juste, pendant que les musiciens vont juste jouer ce qu'ils sont là, j'aimerais juste qu'on s'arrête un instant, qu'on permette au Seigneur, au Saint-Esprit, de parler à nos cœurs aujourd'hui. Quel est le ménage que Dieu a besoin de faire? Quelles sont les choses dans ta vie passée qui doivent rester qu'un souvenir, non pas une chose à vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans ta vie personnelle, dans ton cœur, t'a impacté en 2019, en 2018, ou en 2014, ou en 2020, ou même dans les années 1900? Qu'est-ce qui t'a impacté, qui, dans lequel, te donne de vivre encore aujourd'hui? Qui a des impacts dans ton foyer, dans ta relation de couple. Peut-être que des fois, on s'en aperçoit même pas. On le vit comme si ça faisait partie. Mais la réalité, c'est que Dieu veut pas que ça en fasse partie. Sans s'en apercevoir, il y a comme quelque chose qui a ralenti l'ordinateur, qui a mis un grain de sable dans l'engrenage. Ça peut marcher. Mais ça ne marche pas comme ça devrait. Qui dans lequel, alléluia, on a besoin de laisser
ce qui est en arrière. Ça, c'est pour ta vie, mon frère. Qu'est-ce qui est dans ta relation de couple, qui est dans l'Église, qui avec ta famille, avec tes parents, t'empêche de vivre pleinement. Juste prendre un moment. Ce qu'on va faire, on fait ça peu de fois. Mais ce matin, juste pendant que le piano joue, juste faire un moment de silence et permettre au Seigneur de parler à nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, parle-nous dans ce qui quelquefois a pris place, qu'on ne s'est même pas aperçu, mais Seigneur, qui pourtant a mis un lien sur notre vie. Seigneur, qui nous a changé notre façon de voir, de percevoir les choses, et Seigneur, quelquefois nous empêche de vivre, de saisir ce qui est maintenant. Seigneur, j'aurais pu sortir des hommes et des femmes dans la Bible qui se sont retrouvés, Seigneur, dans les moments de leur vie où tu as dû délimiter certaines choses qu'ils ont vécues dans le passé pour les amener dans ce que tu avais, Seigneur, devant eux. Certains, Seigneur, en ont vécu. Ils ont vécu leur futur dans leur passé. Seigneur, on te bénit pour tout ce qui a été fait, tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce qu'on a vécu. Seigneur, on te rend grâce pour toutes tes bontés d'hier. Seigneur, mon cœur est tellement reconnaissant pour toutes ces choses. Mais Seigneur, je veux être reconnaissant, mais je veux tes bontés pour aujourd'hui. Seigneur, je veux y vivre pleinement maintenant. Je veux les saisir pleinement maintenant. Et Seigneur, on veut entrer dans tout ce que tu as. Montre-nous. Seigneur, pendant cette semaine, montre-nous maintenant, montre-nous demain, cet après-midi, parle à notre cœur. Seigneur, que cette dimension-là en soit une pour cette semaine, dans notre temps de culte personnel. dans notre temps avec toi, d'avoir un moment juste d'arrêt, de permettre à ton Esprit Saint de parler à notre cœur. Seigneur, de prendre et de réaliser ce qui amène une dimension qui va être malsaine, qui nous empêche de saisir. Donne-nous le courage de quitter notre rivage, Seigneur, et de marcher sur les eaux. Donne-nous ce courage, Seigneur. Seigneur, c'était tellement souvent ma prière. Seigneur, je prie, peu importe ce que tu veux, ta volonté, je prie pour une chose, la force de l'accomplir, la grâce, Seigneur, d'y marcher. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de saisir pleinement et de comprendre s'il y a des choses dans nous. Que la guérison prenne place, si le pardon a besoin de prendre place, Seigneur, qu'il y ait ce pardon. Seigneur, s'il y a des gens qui ont mis dans nos vies une dimension qui n'est pas saine, donne-nous d'en prendre conscience. Seigneur, s'il y a des situations qui nous ont imprégnés en bien ou en moins bien, ou des situations et on a besoin d'une grâce spéciale, Seigneur, pour regarder vers ce qui est en avant. Bien sûr, se souvenir, mais pas y vivre. Seigneur, on veut se souvenir, se rappeler tes bénédictions et on veut vivre pleinement. Que dans ta grâce, Seigneur, tu sois avec nous au nom de Jésus. Je prie. Amen. On va chanter le couplet de ce chant ensemble en terminant ce matin. Je veux juste faire une annonce. Peut-être que certains la connaissent ici. Il y a une dame qui venait, en fait, qui était membre à Trois-Rivières. Mais qui venait ici à quelques reprises, et on le mentionne parce que c'est une bonne amie de notre sœur, mais Marilyn Pézanne, qui est décédée à l'âge de 54 ans, voilà une semaine environ. Alors, on veut juste prier pour les gens qui sont autour d'elle, que Dieu puisse donner une grâce tout à fait spéciale à sa famille, les gens qui l'entourent, les personnes qui sont autour d'elle. Et on va terminer avec ce chant ce matin, alléluia. On veut offrir, bien sûr, nos condoléances à notre sœur qui est une amie très proche et à toutes les gens qui entourent cette sœur-là. Alléluia. On va chanter ce chant. On peut se tenir debout ensemble en terminant ce matin. Alléluia. Juste le refrain ensemble. C'est de quoi? Nous sera toujours serre. Seigneur, merci de bénir cette journée aujourd'hui. Garde-nous sur le chemin du retour. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour cette journée. Parce que cette journée en est une où ta bonté, elle est réelle. Et on est reconnaissant de ce que tu es avec nous. Garde ton Église, chacun d'entre nous, que Dieu, tu puisses accomplir toutes choses fidèlement, comme tu l'as toujours fait au nom de Jésus. Amen et amen. Alors chantons cette croix.